Le bilan des actualités de ce mardi 7 février, c'est ici, maintenant, à l'antenne du 107.9 FM. Il est 16h précise, la neige a cessé sur Victoria ce matin, mais les trottoirs sont encore un peu glissants. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On donne tout de suite le coup d'envoi avec les deux bulletins d'information de Denis Lépine. De retour dans 4 minutes avec la météo détaillée, le Radio-Journal des Nations Unies et la suite des informations. En fin d'émission, aujourd'hui, ma collègue Marie-Hélène Bourret nous livre une chronique sur l'impôt destiné aux personnes âgées qui nous écoutent. Ce sera diffusé vers 16h50. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Un récent sondage de la firme Léger démontre la popularité des cartes prépayées à travers le Canada. Le document nous apprend que les cartes prépayées émises par American Express, Mastercard et Visa ont atteint 3 100 millions de dollars en chargement sur les cartes prépayées au pays en 2015, 58% des personnes sondées font moins d'achats en argent comptant qu'en 2014 et 8% plus de consommateurs se sont tournés vers ces cartes prépayées en 2015 comparativement à 2014. Co-fondateur de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés, David Eason a mentionné que de nombreux consommateurs ont une volonté affirmée d'essayer de nouveaux produits de services financiers. À Washington, eh bien, le président Donald Trump a déclaré sur Twitter que les sondages qui ne sont pas à son avantage sont de fausses nouvelles. Un proche collaborateur du président qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat des médias américains a aussi mentionné que le président aurait sous-estimé l'impact de la nomination de Steve Bannon au sein du Conseil de sécurité. Rappelons que l'arrivée de Bannon, anciennement de Breitbart News, à la Maison-Blanche a été critiquée vivement dans les cercles politiques. L'armée canadienne tient une conférence depuis lundi à l'occasion de la Conférence des armées des Amériques à Toronto. La conférence représente une occasion pour les dirigeants des armées de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, et même des Caraïbes, de se rencontrer sur une base régulière pour discuter des domaines d'intérêt commun. La conférence vise à explorer les possibilités d'instruction en vue d'opérations et mettre l'accent sur l'échange des pratiques de chaque pays. David Johnston sera l'hôte d'une cérémonie en fin de journée à Rideau Hall à Ottawa. Le gouverneur général remettra les prix décernés par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Il a précisé dans un communiqué que les prix nous aident à célébrer et à encourager les chercheurs et innovateurs canadiens de premier plan. Le gouverneur général a ajouté que les prix nous permettent aussi de faire reconnaître l'importance et l'ingéniosité du travail effectué au Canada. Les prix vont souligner notamment la recherche interdisciplinaire et l'innovation. Une mise à jour du dossier de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est prévue aujourd'hui à Ottawa. La commission sur l'enquête a souligné que les travaux sont en marche depuis déjà quelques mois. Elle a aussi indiqué que grâce à l'infrastructure maintenant en place et l'embauche des principaux membres du personnel, composé de 35 personnes dont 22 autochtones, eh bien la table est mise pour aller de l'avant. Les 5 commissaires donneront un aperçu aujourd'hui des prochaines étapes et des façons dont les gens peuvent participer. Poursuite aujourd'hui de Carrefour 2017 au Centre Chat à Ottawa. L'événement est organisé par Université Canada et rassemble des innovateurs, des créateurs, des entrepreneurs et des dirigeants communautaires de demain provenant d'universités canadiennes. Des leaders d'opinion sont également sur place pour explorer ce qui attend le Canada au cours des 50 prochaines années. L'événement célèbre aussi le 150e anniversaire du Canada. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a accueilli favorablement la deuxième série de recommandations du Conseil consultatif en matière de croissance économique du gouvernement. Bill Morneau a dit que le but du gouvernement est simple, faire en sorte que la classe moyenne ait les outils nécessaires pour réussir dans l'économie mondiale de demain. La semaine du développement international se déroule jusqu'à samedi prochain. La 27e édition de l'événement a pris forme sous l'initiative d'Affaires mondiales Canada et célèbre la contribution des Canadiennes et Canadiens à la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et en développement. Il est question également d'encourager les Canadiens à découvrir le travail qu'ils accomplissent. Le thème est « Ne laissez personne de côté, le Canada contribue aux objectifs mondiaux ». L'événement a été créé en 1991. Au sport, au hockey, dans la Ligue nationale, victoire des Islanders de New York 6-5 contre Toronto. Les Devils, eux, ont défait les Sabres 2-1 et Saint-Louis a blanchi Philadelphie 2-0. Ce soir, Calgary sera à Pittsburgh, Anaheim à New York contre les Rangers, San Jose à Buffalo. Toronto recevra Dallas, Columbus à Détroit, la Caroline à Washington, Los Angeles à Tampa Bay, Saint-Louis à Ottawa, Vancouver à Nashville, Montréal au Colorado et le Minnesota à Winnipeg. Dans la NBA, gain de Toronto 118-109 contre les Clippers de Los Angeles. Le Comité olympique canadien maintenant a annoncé qu'Isabelle Charest a été choisie comme chef de mission d'équipe Canada pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. Et au football, eh bien les 49ers de San Francisco ont annoncé l'embauche de Kyle Shanahan à titre d'entraîneur-chef.
Vous aurez reconnu Denis Lépine qui nous fournit tous les jours ses bulletins d'information. On va passer à la météo. Vous écoutez le débrief, il est 16h05. On a actuellement 1 degré au centre-ville de Victoria. Ça reste dégagé au cours des prochaines heures. Le mercure va descendre à moins 3. Donc c'est une pause entre deux averses de neige, si vous voulez, puisque la neige va reprendre demain. C'est ce que nous annonce Environnement Canada. Donc demain, maximum de 0 dans la grande région de Victoria avec de la neige. Et je vous lis tout de suite l'avertissement qui a été émis il y a à peine 30 minutes sur le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca. On va lire ça tout de suite. C'est sur le côté français donc du portail d'Environnement Canada. Ça concerne le Grand Victoria. Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses. C'est ainsi que commence le communiqué émis à 15h40 heure locale. Un intense front chaud du Pacifique s'installera sur la région tard mercredi après-midi, donc demain, mercredi 8 février, tard en après-midi, le front arrivera du sud, propageant de l'air plus chaud et humide sur l'air plus froid de l'Arctique, encore en place à la surface ici dans la région. La neige commencera à tomber mercredi après-midi et deviendra plus forte en soirée. À mesure que l'air chaud s'installera, il y aura une forte probabilité de pluie verglaçante, suivie par des quantités importantes de pluie au cours de la nuit de mercredi à jeudi et dans la journée de jeudi. Donc pour avoir tous les détails, rendez-vous sur le site météo.gc.ca qui est le portail d'Environnement Canada. Actuellement, c'est dégagé. Il n'y a aucune précipitation sur le sud de l'île de Vancouver. On a 1 degré à l'aéroport de Victoria. C'est 1 degré également au centre-ville de Vancouver et 2 degrés du côté de Nanaimo. Sans plus tarder, nous rendons maintenant au Radio-Journal des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour.
Bonjour à toutes et à tous. Christina Silvero pour ce journal d'ONU Info. En titre, le Conseil de sécurité examine la menace de Daesh. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie rencontre le nouveau secrétaire d'État américain. Les condamnations du test balistique de l'Iran se multiplient. Les pays voisins du Burundi appelés à fournir plus de terrain pour accueillir des réfugiés burundais. En dossier, il sera question du plaidoyer d'Adama Dieng en faveur de la CPI. Le secrétaire général adjoint aux affaires politiques a indiqué mardi devant le Conseil de sécurité que les États membres continuent de faire face à des défis significatifs sur le plan de la coopération internationale pour combattre Daesh et a jugé critique d'améliorer leur capacité de réaction. Outre les récents attentats perpétrés en Europe par Daesh ou inspirés du groupe, Jeffrey Feltman a signalé que l'État islamique représente une menace pour la Libye et ses voisins. Daesh a aussi augmenté sa présence en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, tandis que le groupe affilié Boko Haram demeure une grave menace pour le Nigeria et au-delà. Jeffrey Feldman.
L'EIL est sur la défensive militaire dans plusieurs régions. Mais bien que ses revenus et le territoire qu'il contrôle sont en train de se réduire, l'EIL semble avoir suffisamment de fonds pour continuer de se battre. Le groupe dépend principalement de revenus liés à l'extorsion et l'exploitation d'hydrocarbures, bien que les ressources en la matière soient sur le déclin. Les États membres s'inquiètent que l'EIL ne cherche à développer d'autres sources de revenus, comme les enlèvements contre rançon et sa dépendance sur les dons. L'EIL s'adapte à la pression militaire de plusieurs manières, en ayant recours à des modes de communication et de recrutement de plus en plus clandestins, notamment en utilisant le dark web, l'inscription et des messagers. De plus, il a élargi le théâtre de ses attaques aux pays voisins de l'Irak et de la Syrie, tout en continuant d'encourager des partisans plus éloignés à perpétrer des attentats. Entre-temps, les combattants terroristes étrangers qui quittent l'Irak et la Syrie augmentent la menace terroriste dans leur pays d'origine.
Les services de l'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie considèrent les exécutions de masse et la torture en Syrie comme inacceptables après la publication d'un rapport d'Amnesty International qui fait état de 13 000 personnes pendues en 5 ans dans une prison de Damas. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de Staffan de Mistura lors d'un point de presse tenu ce mardi à Genève. Elle s'est aussi alarmée de la présente situation humanitaire en Syrie et a fait le point sur les démarches diplomatique. Alpha Diallo a suivi.
Sur le front diplomatique, Staffan de Mistura a rencontré jeudi dernier le nouveau secrétaire d'État Rex Tillerson. L'émissaire onusien a ensuite rencontré des sénateurs du Tennessee, du Maryland et de la Floride, ainsi que de hauts responsables du Conseil de sécurité nationale. Toujours sur le front diplomatique, trois des collaborateurs de Staffan de Mistura ont participé aux travaux du groupe commandant Astana pour renforcer le cessez-le-feu en Syrie. Sur le plan humanitaire, seuls deux convois ont pu atteindre des civils depuis début janvier. Selon la porte-parole de Staffan de Mistura, l'un d'entre eux a pu apporter dimanche la nourriture et des matériels d'urgence pour plus de 80 000 personnes dans la région de Homs où des sites n'avaient pas reçu d'aide depuis septembre dernier. À en croire Yara Sharif, le mois de janvier a été le pire depuis près d'un an pour l'aide humanitaire en Syrie. Seul un seul convoi a été d'ailleurs autorisé sur les 21 demandes. En outre, les villes assiégées de Madaya, Zabadani, Al-Foua et Kefreya n'ont pas reçu d'aide depuis plus de 3 mois. À Alep, plus d'un million de personnes ont des difficultés d'accès à l'eau potable parce que les sites d'approvisionnement sont contrôlés par Daesh.
Et puis à Genève toujours, les condamnations du test balistique de l'Iran se sont multipliées ce mardi à la conférence du désarmement. L'essai du 29 janvier a notamment été dénoncé par les délégations des États-Unis et d'Israël. Les explications d'Isabelle Dupuis.
Face aux critiques, le représentant de l'Iran a indiqué devant la conférence du désarmement que l'essai balistique du 29 janvier n'avait pas pour but de provoquer une quelconque déstabilisation de la région. Nousereddine Hedari a aussi argué que le test n'était pas une contravention à la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui appelle l'Iran à s'abstenir de toute activité liée aux missiles balistiques conçus pour transporter une arme nucléaire.
Iran is not seeking
Nasiruddin Hedari a assuré que l'Iran ne cherche pas à développer des armes nucléaires et que son pays ne voit d'ailleurs pas dans l'armement nucléaire une source de sécurité. Son homologue des États-Unis a toutefois vu dans l'essai de l'Iran une contradiction évidente de la résolution du Conseil de sécurité. Robert Woods a estimé que l'Iran doit être tenu pour responsable et a appelé les autres États à ne pas fournir à l'Iran l'expertise technique nécessaire pour mener de tels essais.
À présent, l'Afrique et l'exode burundais. Les Nations unies s'attendent à ce que le nombre de réfugiés burundais dans les pays limitrophes, en raison de la situation politique, dépasse les 500 000 en 2017. À l'instar de la Tanzanie, où les humanitaires ont constaté une moyenne de 600 arrivées par jour depuis le début de cette année. Face aux problèmes liés au surpeuplement, le HCR plaide pour l'octroi de plus de sites pour pouvoir gérer cet afflux. William Spindler, porte-parole du HCR.
Ce mouvement des réfugiés continue à mettre des pressions sur les ressources des pays voisins, notamment la Tanzanie, le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dans ces quatre pays, les conditions continuent à détériorer à cause des surpeuplements qui posent des problèmes. Ils ont une incidence sur l'accès aux services sociaux, la provision des protections pour les enfants. Ils exacerbent la violence sexuelle et de genre. Il y a aussi des problèmes avec l'accès à la scolarité parce qu'il n'y a pas suffisant d'écoles pour les enfants et peut aussi poser des problèmes de santé à cause des conditions sanitaires.
Retour sur l'actualité avec le plaidoyer d'Adama Dieng en faveur de la Cour pénale internationale. En 2016, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur intention de se retirer de la CPI. Dans une tribune récemment publiée dans le journal The East African, le conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide a affirmé que dénoncer le statut de Rome nuit à la justice internationale pour tous. L'occasion pour Jérôme Longuet de le recevoir dans nos studios et lui demander de revenir sur l'importance de la Cour et l'engagement africain.
La Cour pénale internationale a été créée à un moment où l'impunité régnait partout. Et l'impunité engendre le mépris de la loi. Et le mépris de la loi entraîne la commission d'atrocités criminelles, comme nous en sommes aujourd'hui les témoins en Syrie, au Yémen, au Sud-Soudan, et j'en passe.
Alors 15 ans après l'entrée en vigueur du statut de Rome sur la Cour pénale internationale, force quand même est de constater que certaines critiques ont été répétées, notamment par rapport au fait que la Cour vise dans pas mal d'affaires de nombreux pays africains et que souvent ces pays africains sont pris pour cible. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces attaques ?
Mais écoutez, l'Afrique a été à l'avant-garde dans l'adoption de ce traité. Et à la vérité, aujourd'hui, le plus grand groupe régional au sein de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale, c'est le groupe africain. Pas moins de 34 États. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a confiance en la justice. Parce que l'Afrique était déchirée pendant des années. Et elle a compris qu'il fallait mettre un terme à l'impunité. Au sein de sa propre organisation, l'Union africaine, elle a adopté une résolution demandant à mettre un terme à l'impunité. Cela dit, les attaques qui sont formulées, nous devrons les prendre avec beaucoup de philosophie. Maintenant, il faut aussi admettre qu'il n'y a pas une seule institution au monde qui soit parfaite, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. Et les institutions sont appelées à être amendées, réformées, et c'est à la suite de ces réformes qu'on y arrivera. Ce n'est pas en se retirant de la Cour qu'on va régler le problème de la justice, le problème de l'impunité. La Cour, rappelons-le, se fonde sur le principe de la complémentarité. C'est-à-dire lorsque l'État n'a pas la capacité ou la volonté de juger les auteurs des crimes graves que sont le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, alors là, la Cour se saisit.
Alors justement, par rapport à ces réactions, il y a d'autres États africains qui ont affiché leur intention de quitter la Cour pénale internationale. Il n'y a pas d'alternative régionale. Vous dites dans votre édito que, en fait, les choix sont quand même assez limités, qu'on est obligé de faire avec cette instance qui, même si elle est imparfaite, existe. Vous parlez de réforme. Est-ce que ça veut dire que c'est amender le texte même du statut ou est-ce que c'est dans la mise en œuvre par le procureur, par le président, par les différentes instances de la Cour ?
Ben écoutez, il appartiendra aux différentes instances, la présidence, le bureau du procureur, le greffier, collectivement et activement, d'engager un dialogue avec les États parties, mais aussi avec les États non parties, mais aussi avec les acteurs non étatiques, les acteurs de la société civile, les victimes. Parce que finalement, si cette Cour existe, c'est avant tout pour rendre justice aux victimes. Or, on ne peut pas ignorer les victimes. Donc, j'ai conscience, aujourd'hui plus que jamais, qu'il est possible de trouver une sortie pour régler les problèmes. C'est le forum que constitue l'Assemblée des États parties. Et à cet égard, je me réjouis de ce que le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, ait annoncé avant même son arrivée à Banjul, que la Gambie restera au sein de la Cour pénale internationale.
Et c'est avec Adama Dieng que se referme ce journal radio de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Presque 16h18 à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. On commence par une nouvelle aperçue sur le portail de Radio-Canada. 8 millions pour un centre d'aide aux toxicomanes. C'est une nouvelle qui a paru cet après-midi sur le portail pour soutenir l'activité du BC Center on Substance Abuse, un centre d'aide aux toxicomanes. Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Terry Lake, a annoncé que la province accordait près de 6,9 millions de dollars à cet organisme, dont 1,9 million destinés à ses frais d'opération. Un don privé de 1 million de dollars de Peter Bull complète les fonds provinciaux par l'intermédiaire de la Fondation de l'Hôpital Saint-Paul, ce qui permet au centre d'obtenir en tout 8 millions de dollars. Cette somme s'ajoute aux 5 millions de dollars qui avaient été débloqués par la province de Colombie-Britannique en septembre 2016 pour lutter contre la crise des surdoses en Colombie-Britannique. Après avoir rappelé le nombre de décès par surdose durant l'année 2016, à savoir 914 décès par surdose en Colombie-Britannique, un record, un triste record. Le ministre de la Santé, Terry Lake, a également évoqué son inquiétude par rapport à l'arrivée récente du carfentanil, une substance 100 fois plus toxique que le fentanyl. Les activités du BC Center on Substance Abuse touchent à la recherche, l'éducation et aux soins aux malades. Vous trouverez cette nouvelle sur le portail de Radio-Canada. 8 millions de dollars pour un centre d'aide aux toxicomanes. Toujours sur les portails de Radio-Canada, cette fois du côté anglophone, BC Forestry Minister prepares for challenging softwood lumber negotiations. Notre ministre des Forêts de la Colombie-Britannique se prépare à des négociations ardues dans le dossier du bois d'œuvre, c'est sur le portail de CBC. Donc il s'agit de négociations qui vont débuter cette année, ou qui vont recommencer, puisque c'est un sujet qui n'est jamais vraiment réglé entre les deux pays, entre les États-Unis et le Canada. Alors, le ministre a déclaré qu'il n'était pas naïf lors d'une entrevue qu'il accordait à l'émission The Early Edition, une émission de CBC. Donc, le ministre Steve Thompson se prépare à des négos difficiles et c'est pourquoi il entreprend avec les différents joueurs de l'industrie forestière de la Colombie-Britannique un effort de lobbying au cours des prochains mois. Un effort de lobbying qui aura pour but de convaincre les Américains de faire des concessions ou d'assouplir leur position dans le dossier épineux du bois d'œuvre. Vous trouverez cette nouvelle sur le portail de la CBC. Autrement, plus près de chez nous, dans le site Saanich News, un article sur la réforme électorale fédérale. Bien sûr, c'est un sujet national, mais l'angle ici est très local puisque c'est la femme politique bien connue des électeurs, Elizabeth May, qui est la chef du Parti vert et aussi la députée de nombreux auditeurs de CILS. Elizabeth May est l'élue fédérale de la circonscription Saanich Gulf Islands et elle revient sur la décision d'il y a quelques jours du gouvernement Trudeau d'annuler tous ces plans de réforme électorale. On se souviendra que le candidat Trudeau, lors de la campagne électorale de 2015, avait promis que l'élection d'octobre 2015 était la dernière sous le format de scrutin uninominal à un tour, le fameux scrutin first past the post, comme on l'appelle en anglais. Alors, Justin Trudeau avait promis une réforme électorale. Cette promesse semble avoir été brisée. C'est du moins ce qui ressort des récentes déclarations du gouvernement. Alors, De nombreux critiques se sont exprimés sur la question au cours des derniers jours. L'opposition est très en colère. Et ça comprend bien sûr la chef du Parti vert, notre élue locale Elisabeth May, qui siégeait elle-même sur le comité spécial qui était chargé de formuler des recommandations au gouvernement en matière de réforme du scrutin. Donc elle était vraiment aux premières lignes cet effort de réforme devant mener à un scrutin plus représentatif pour les Canadiens. Le comité auquel elle siégeait avait proposé un système proportionnel et le gouvernement Trudeau a rejeté les travaux du comité et préféré le statu quo. Donc vous trouverez dans Saanich News une interview qu'a accordée Elisabeth May au journaliste Tim Collins et elle déclare dans cette interview qu'elle est abasourdie par la décision récente du gouvernement Trudeau. Très déçu, donc, vous aurez le détail dans cette interview dans Saanich News. Et sinon, toujours dans nos médias locaux, cette fois dans le quotidien Times Colonist, on apprend à propos d'une autre femme politique de la région de Victoria. Il s'agit de Barb Desjardins. Elle est mairesse d'Esquimalt. On apprend à son sujet qu'elle tentera d'obtenir l'investiture libérale dans la circonscription Esquimalt-Metchosin. Alors, on indique dans cet article que ce n'est qu'une formalité. Elle aura aucune difficulté à obtenir l'investiture libérale dans ce comté. Donc, elle représentera les couleurs libérales aux élections de mai, les élections provinciales. Alors, Madame Desjardins, mairesse d'Esquimalt, désire faire le saut en politique provinciale. Donc, elle est maire actuellement d'Esquimalt. Elle voudrait devenir députée provinciale. Donc, vous trouverez cet article dans le Times Colonist, c'est sous le titre « Desjardins, a likely lock for BC Liberal nomination ». Et elle indique par ailleurs dans cet article qu'elle souhaite conserver ses fonctions de maire le plus longtemps possible avant de passer du côté provincial, donc avant d'entamer sa campagne d'élection provinciale dans la circonscription Esquimalt-Metchosin. Et parlant de femmes politiques et de parti libéral britanno-colombien, mentionnons que le média britanno-colombien The Breaker, qu'on trouve à l'adresse thebreaker.news, thebreaker.news, a signalé hier sur son fil Twitter la tenue ce soir, donc ce soir mardi, au Plaza Hotel de Vancouver, d'une activité de financement du Parti libéral de Christy Clark intitulé Annual Women's Reception. Et le coût d'entrée, je vous le donne en 1 300 $ et le billet VIP est à 1 000 $, peut-être 1 500 $. C'est au-dessus de 1 000 $ en tout cas. Alors voilà, c'est une illustration du système de financement politique auquel on a droit ici en Colombie-Britannique, le Wild West, comme l'indiquait récemment le New York Times. Alors, la faute n'appartient pas uniquement au Parti libéral de Christy Clark. Tous les partis bénéficient de ce Wild West, de ce système de financement politique qui a cours ici en Colombie-Britannique. Une petite mention. Si vous êtes intéressé à des articles sur le financement politique, TheBreaker.news, c'est un bon endroit, ainsi que le TAI, notre journal local indépendant. On continue dans ce bloc provincial, cette fois à propos d'une nouvelle aperçue sur le portail Radio-Canada francophone de Colombie-Britannique. Il est question de New Leaf, c'est un transporteur aérien qui ne semble pas très très sérieux. L'Association des consommateurs diffuse une mise en garde à propos de cette compagnie aérienne. L'Association des consommateurs du Canada, l'ACA, diffuse une alerte visant l'entreprise de vol à bas prix New Leaf. Relief en raison de l'annulation et la modification arbitraire des heures et dates de vol. New Leaf Travel Company est une entreprise établie à Winnipeg qui opère avec des avions affrétés par Flair Airlines, une compagnie qui est établie, elle, à Kelowna, en Colombie-Britannique. Le mois dernier, New Leaf a annulé de nombreux vols reliant les villes d'Edmonton, Kelowna, Abbotsford, Halifax et Hamilton. Le transporteur aérien a également cessé d'offrir certains vols vers la Floride et l'Arizona. Environ 3000 voyageurs internationaux et 1500 voyageurs canadiens auraient été affectés par ces changements arbitraires. Donc le titre de cette nouvelle, New Leaf, l'association des consommateurs, diffuse une mise en garde. Autrement, toujours sur le portail francophone de Radio-Canada, Colombie-Britannique, deux écoles du CSF étaient fermées mardi, aujourd'hui, en raison des intempéries. C'est ce que nous apprend Radio-Canada. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le CSF, a fermé aujourd'hui, mardi, des écoles l'école La Vérendrye et l'école La Vérendrye, oui, à Chilliwack, ainsi que l'école Sophie Morigeau à Fernie. Fernie, ça c'est dans l'intérieur, non loin de l'Alberta. Donc en raison des chutes de neige qui sont survenues en différents endroits de la province. Sinon, pour terminer ce bloc provincial, une petite nouvelle insolite qui s'est passée chez nous, tout près de Victoria. Je vous donne le titre de la nouvelle, un bon samaritain arrêté au volant d'une Zamboni pour nettoyer les rues. Alors, c'est quelqu'un qui a voulu participer au déneigement avec une Zamboni, mais c'est une mauvaise idée. Alors, je vous lis quelques lignes. Le service de police du district de Central Saanich a arrêté un homme au volant d'une surfaceuse, donc une Zamboni, dans les rues d'un quartier résidentiel lundi soir. Les surfaceuses sont généralement utilisées pour lisser la glace des patinoires. Elles sont toujours utilisées pour lisser la glace des patinoires, en fait. Mais le fermier en question, qui l'a mise sur la route, a voulu dégager la neige qui s'entassait sur la chaussée. J'imagine que cet homme a acheté une Zamboni d'occasion et les rues étant en mauvais état, il a voulu déneiger la route, a avancé le caporal Dan Cottingham du service de police local. Bien qu'il ait eu de bonnes intentions, nous lui avons demandé de retourner à sa ferme, a dit le policier, soulignant que la surfaceuse n'était pas assurée et qu'elle représentait un danger sur les routes. On reviendra sur les conditions météo qui nous sont annoncées par Environnement Canada en toute fin d'émission. La neige va revenir sur la région de Victoria demain, donc je vous donnerai tous les détails en fin d'émission. Pour l'instant, on fait une petite pause musicale. On va écouter l'artiste Daniel Bélanger, une pièce qui s'intitule « Il y a tant à faire ». Il y a tant à faire, en fait, ça pourrait être une chanson thème pour le débrief. Il y a tant à faire. On écoute ça tout de suite et on se retrouve dans quelques minutes.
Le temps n'est plus au regret, il faut me ressaisir. Le vague à l'âme, s'il naviguait, il s'aborderait son navire. Il faut marcher, il y a tant à faire. Il faut rouler, m'acharner, 100 fois tourner, piner la terre. Il faut tenir, il faut bâtir sur l'inconnu. Sa chemise qu'on gagnera au risque de finir tout nu. Les autres peuvent penser le contraire. Il faut rouler, s'acharner, 100 fois tourner. Il y a tant à faire et ce n'est pas ridicule. C'est comme si c'était facile. Une longue nuit de l'hiver, je perds le fil de ma vie, il est tout petit. J'en fais
je le retrouve tôt ou tard dans le magistral de l'univers. Il faut tisser, il y a tant à faire.
Excellente pièce de Daniel Bélanger dans le débrief à 16h32. Merci d'être à l'écoute en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 8 février. Bienvenue dans l'émission. On est encore ensemble jusqu'à 17h, encore une trentaine de minutes. On va passer aux nouvelles du jour. La première concerne la succession de Graham Fraser aux langues officielles du Canada. C'est une nouvelle qui est tombée il y a quelques heures, une exclusivité de TFO. Dans une entrevue exclusive accordée au site d'actualité ONFR, un site qui est impulsé, maintenu par le diffuseur franco-ontarien TFO. Dans une interview donc accordée à ce média, l'ancienne ministre déléguée aux affaires francophones de l'Ontario, Madeleine Meyer, n'a pas caché son ambition de devenir la prochaine commissaire aux langues officielles du Canada. Pressentie pour poser sa candidature, Madeleine Meyer a confirmé vouloir remplacer Graham Fraser, qui avait quitté ses fonctions à la fin de son mandat en décembre. Le poste est ouvert et les gens peuvent postuler et je dois avouer que j'ai postulé pour ce poste-là, a avoué l'ancienne députée provinciale d'Ottawa-Vanier lors d'une interview accordée à ONFR. 7 mois après son départ de la politique, Madeleine Meyer s'est dite prête à un retour à la vie active et croit que l'obtention de ce prestigieux poste au sein de la francophonie canadienne serait une suite logique dans sa carrière. Après avoir été ministre responsable des affaires francophones pendant plus de 12 ans, a-t-elle dit, et on sait que les langues officielles majoritairement ce sont les francophones hors Québec, j'ai beaucoup d'expérience. Je connais aussi les besoins de la communauté anglophone du Québec, a-t-elle ajouté. Alors, le site va afficher dans les prochaines heures la vidéo de cet entretien. Ça n'est pas encore en ligne, mais ça le sera prochainement. Vous trouverez ça sur le portail TFO, le portail de la télévision publique franco-ontarienne. On passe à d'autres nouvelles dans ce bloc nouvelles du jour. La ministre canadienne des Affaires étrangères est de passage à Washington. C'est rapporté par la presse canadienne. La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, successeur de Stéphane Dion, amorce un court séjour à Washington où elle rencontrera son homologue, le secrétaire d'État Rex Tillerson, de même que d'autres républicains. Au fil de la journée, Chrystia Freeland rencontre le président de la Chambre des représentants, le Speaker, comme on l'appelle là-bas, Paul Ryan, le président du Comité des affaires étrangères du Sénat, le sénateur Bob Corker, ainsi que le président du Comité des forces armées du Sénat, le sénateur John McCain, candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2008. La visite de deux jours de Chrystia Freeland à Washington aujourd'hui et mercredi fait partie d'une série de rencontres entre des membres du gouvernement Trudeau et de l'administration Trump. Le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, a visité le Pentagone hier lundi, tandis que le ministre des Finances, Bill Morneau, est attendu à Washington demain mercredi. Et c'est sur une photo de Chrystia Freeland serrant la pince de Paul Ryan que s'ouvre cet article de la presse canadienne dans le journal Le Devoir. Paul Ryan qui est, disons-le, un climato-sceptique, donc un négationniste du climat. Il est en climate denial, comme on dit. Il est pro-NRA, anti-avortement. Il est aussi courtisan de l'électorat créationniste. Donc, c'est un républicain comme on les connaît. Donc, Madame Freeland qui serre la main de Paul Ryan, le speaker de la Chambre des représentants dans cette photo, couronnant l'article du Devoir en date du 7 février. Toujours aux États-Unis, le Sénat américain confirme de justesse la ministre controversée de l'éducation de Donald Trump. C'est rapporté dans plusieurs médias, dont Le Monde. Le Sénat américain a sauvé à une voix près mardi 7 février, la nomination controversée de Betsy DeVos, une milliardaire républicaine favorable aux écoles privées, à la tête du ministère de l'Éducation dans le gouvernement du président Donald Trump. Les sénateurs ont voté par voix 50 contre 50, donc 50-50 littéralement, et c'est seulement grâce au vote du vice-président américain Mike Pence que Betsy DeVos a pu obtenir la majorité des suffrages. C'était la première fois, précise cet article du Monde, qu'un vice-président votait pour une confirmation comme la Constitution le lui permet en cas d'égalité des votes. Plus loin dans cette revue de presse des nouvelles du jour, tirée de la presse canadienne, du fil de la presse canadienne, Ottawa rejette l'idée de hausser l'âge d'admissibilité à la retraite. Le gouvernement fédéral rejette la recommandation de son conseil consultatif en matière de croissance économique qui lui avait suggéré lundi de hausser l'âge d'admissibilité à la retraite. Le comité avait proposé de hausser l'âge d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse et aux prestations du régime de pension du Canada pour encourager les travailleurs à rester sur le marché du travail plus longtemps. Mais le ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, a affirmé que le gouvernement respecterait sa promesse de fixer l'âge de la retraite à 65 ans. Donc, statu quo dans ce dossier. Vous trouverez ça dans Le Devoir, notamment. C'est un article de la presse canadienne. Ottawa rejette l'idée de hausser l'âge d'admissibilité à la retraite. Sinon, dans le portail de la CBC, un article qui illustre la pression migratoire qui s'accentue sur le Canada actuellement suite aux mesures anti-migrants de Donald Trump. On rapporte qu'au Manitoba, il y a une petite ville qui s'appelle Emerson qui reçoit des réfugiés qui fuient littéralement les États-Unis, se présentent au Canada puisque en réaction aux politiques anti-migratoires et au climat intolérant que ces politiques apportent aux États-Unis. Donc, cette petite ville d'Emerson, dans le sud du Manitoba, a été confrontée à un afflux de réfugiés. Ces réfugiés proviennent souvent du Moyen-Orient. Ils ont transité par les États-Unis au préalable. Et il fait très froid là-bas, donc les autorités sont assez inquiètes. Certains réfugiés qui ont passé la frontière ont dû se faire amputer des doigts en raison du froid très rigoureux, du froid polaire qui sévit actuellement. Donc la GRC a confirmé que 22 personnes avaient traversé la frontière au cours du week-end. Donc ça, c'est des chiffres qui sont en hausse, rapporte cet article de CBC. Vous trouverez ça sur le portail de CBC. Autrement, dans la presse canadienne, un autre point de vue sur la crise migratoire larvée entre les États-Unis et le Canada et sur les politiques anti-migratoires de Donald Trump. Le PDG de WestJet, donc vous connaissez WestJet, c'est la compagnie aérienne, le PDG de WestJet qui est d'avis, lui, que les politiques anti-migratoires de Donald Trump auront un effet bénéfique sur le tourisme au Canada, donc un effet économique bénéfique. Plus de touristes choisiront de se rendre au Canada pour y passer leurs vacances à la suite de ces récentes politiques du président Trump. C'est dans la presse canadienne côté anglophone. On poursuit dans ce bloc nouvelle du jour, cette fois à l'international. C'est dans les colonnes de l'agence France Presse et ça concerne l'Espagne. Catalogne, Artur Mas met en garde Madrid. Alors, on parle ici des intentions de sécession, d'indépendance de la Catalogne. C'est un mouvement qui est toujours en sourdine, plus ou moins puissant au fil des époques. Je vous lis quelques lignes de cet article. Jugé pour avoir organisé un vote sur l'indépendance en 2014, l'ancien président de la Catalogne, donc Catalogne c'est Barcelone, hein, c'est la région autour de Barcelone, Artur Mas, qui était au pouvoir entre 2010 et 2016, prédit une réaction très forte des Catalans si le gouvernement espagnol, donc Madrid, suspend les autorités catalanes pour empêcher le référendum, un autre référendum sur l'autodétermination des Catalans. Donc, c'est pas un autre référendum, c'est un référendum sur l'autodétermination des Catalans. Donc ce référendum est prévu pour septembre prochain, donc septembre 2017. Et là, Madrid reçoit une mise en garde de la part de cet ancien président de la Catalogne, Artur Mas. C'est dans le fil de l'agence France Presse. Si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, c'est une interview qu'a accordée Artur Mas à l'agence France Presse. Et toujours en Europe, cette fois en France, l'affaire François Fillon se poursuit. De nouvelles révélations. On apprend que l'épouse du candidat de droite à la présidentielle de 2017 a touché 45 000 euros d'indemnité de licenciement. C'est révélé encore une fois par le Canard Enchaîné, le journal satirique qui a fêté son centenaire récemment. Alors cette nouvelle révélation est vraiment embêtante pour le candidat Fillon. On parle d'indemnité de licenciement pour un emploi qui, en fait, n'a jamais existé. Donc, non seulement l'emploi était fictif, la personne qui recevait l'argent, l'épouse de François Fillon, Pénélope Fillon, a en plus, par-dessus le marché, reçu des indemnités de départ. Donc, ça, c'est rapporté dans tous les médias français. Vous aurez aucun mal à suivre les derniers rebondissements de cette affaire. Et on va continuer dans ce bloc nouvelle du jour. Le gouvernement roumain est en difficulté actuellement. La colère gronde en Roumanie. La population est vraiment insatisfaite de son gouvernement et qui est pourtant nouvellement élu. On trouve un article fort intéressant sur le portail Mediapart. C'est sous la plume d'Amélie Poinceau, je vous en lis quelques lignes. La mobilisation continue en Roumanie malgré le retrait de l'ordonnance qui visait à limiter la lutte contre la corruption. Et c'est une ordonnance qui a mis le feu aux poudres. Si ces manifestations de masse rappellent le mouvement du Maïdan en Ukraine il y a 3 ans, elles ont cette fois lieu au sein même de l'Union européenne, car en effet, la Roumanie est membre de l'UE, précise la journaliste. La mobilisation n'a pas faibli, au contraire, dit-elle, depuis le retrait dimanche de l'ordonnance qui visait visait à dépénaliser certains faits de corruption, une ordonnance qui a été promulguée il y a une semaine par le gouvernement roumain. Le nombre de manifestants a encore grossi à Bucarest et dans une soixantaine de villes du pays. Ils sont des centaines de milliers à se rassembler tous les soirs pour protester contre un gouvernement pourtant élu il y a 2 mois seulement. Alors vous trouverez ça dans le portail Mediapart sous la plume d'Amélie Poinceau, la situation en Roumanie qui est tendue. Et dans Le Monde, on nous indique que le Danemark va envoyer un ambassadeur numérique. Vous avez bien entendu, un ambassadeur numérique au pays de Google et de Facebook. Alors c'est un nouveau concept si vous voulez. Les Danois veulent établir un dialogue diplomatique avec les grandes multinationales de la Silicon Valley, comme ils le font depuis des siècles avec les nations. Alors, fascinant, c'est dans Le Monde, sous le titre « Le Danemark va envoyer un ambassadeur numérique au pays de Google et Facebook ». Et on referme ce bloc nouvelle du jour avec une nouvelle un petit peu plus légère qui nous vient de New York pour répondre au président Donald Trump. Le musée d'art moderne de New York, le MoMA, mondialement célèbre, expose des œuvres d'artistes musulmans. Les messages politiques sont souvent porté par les artistes, écrit le journaliste Stéphane Lauer dans Le Monde, mais plus rarement par les institutions culturelles. L'une des plus célèbres d'entre elles, le musée d'art moderne de New York, le MoMA, vient pourtant de prendre une initiative spectaculaire visant à faire entendre son opposition au décret anti-immigration signé le 27 janvier par le président Donald Trump. Donc vous trouverez ça dans le journal Le Monde sous la plume de Stéphane Lauer. Une autre petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes et pour l'instant on écoute Louis-Jean Cormier, une pièce intitulée « Complot d'enfants ».
Nous partirons seuls.
Jean Cormier dans l'émission Le Débrief à 16h49. Merci d'être à l'écoute en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 8 février. On va passer à la revue de presse des éditoriaux. On a à peine le temps de citer le texte d'opinion du chroniqueur Yves Boisvert et ça concerne Donald Trump, encore une fois. C'est très difficile de faire une émission du débrief sans parler du président Trump, malheureusement. Alors, ce texte d'Yves Boisvert s'intitule « Les juges, mur anti-Trump ». Alors, les juges sont un mur anti-Trump, indique Yves Boisvert dans ce texte paraissant dans les pages éditoriales du journal La Presse. La bonne nouvelle, écrit-il, c'est que les États-Unis ont encore un système judiciaire indépendant capable d'empêcher les abus de pouvoir du président. La mauvaise nouvelle, c'est que ce même président s'est lancé dans une campagne hargneuse de dénigrement et d'intimidation des juges américains, une campagne sans précédent. Enfin, peut-être pas totalement sans précédent, précise Yves Boisvert dans cette chronique. En 1832, le président Andrew Jackson avait défié le juge en chef John Marshall d'aller lui-même faire exécuter sa décision affirmant la souveraineté indienne sur des territoires. Un siècle plus tard, Franklin, Delano Roosevelt, face à une cour suprême ultra-conservatrice qui invalidait toutes les lois progressistes, avait menacé d'y faire passer de 9 à 15 le nombre de juges. Les précédents historiques, continue Yves Boisvert, ne rendent pas moins graves les attaques répétées de Donald Trump depuis 2 jours. Le président des États-Unis n'a pas dû digérer qu'un soi-disant juge, comme il dit, suspende son décret bloquant l'entrée des ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans pour une durée de 90 jours. L'arrivée de réfugiés en général pour 120 jours. Donc le président des États-Unis n'a pas digéré cette décision du juge, écrit-il. À 15h48 hier lundi, il écrivait encore sur Twitter, le même Donald Trump, « Je ne peux pas croire qu'un juge soumettrait notre pays à un tel péril. Si quelque chose arrive, blâmez-le et le système judiciaire. Les gens arrivent en masse, c'est mauvais. » Bad, comme il dit dans son tweet, Donald Trump. Alors, Yves Boisvert continue, « Ce n'est pas la première personne ni le premier juge que Donald Trump insulte. Sauf qu'aujourd'hui, il est président, donc à la tête du pouvoir exécutif américain. S'attaquer à un opposant politique, c'est de bonne guerre. Mais s'attaquer personnellement à un juge, c'est violer la séparation des pouvoirs. Les attaques sont particulièrement vicieuses de sa part, car elle ne vise pas seulement la décision ridicule, entre guillemets, mais le juge, la personne du juge lui-même. Il va jusqu'à suggérer Donald Trump que si jamais un attentat terroriste est commis aux États-Unis, ce serait la faute de ce juge et de tout le système judiciaire. Donc, dans cette chronique, Yves Boisvert démolit la position de Donald Trump sur l'appareil judiciaire tel qu'on la connaît maintenant depuis quelques jours. Donc une position très hostile, antagoniste envers l'appareil judiciaire, une position qui viole la séparation des pouvoirs. Donc vous trouverez ça dans La Presse, dans la section des éditos et des chroniques sous la plume d'Yves Boisvert. On va se rendre dans quelques instants à la chronique de Marie-Hélène. Je vous l'avais dit en début d'émission, Marie-Hélène nous livre une petite chronique sur la fiscalité, l'impôt des personnes du troisième âge, l'impôt des aînés. C'est la saison de l'année justement où on commence à penser à faire nos impôts. On a encore quelques temps pour le faire, donc écoutons cette chronique et on se retrouve de l'autre côté dans environ 5 minutes.
Je vous rappelle maintenant les informations relatives aux crédits d'impôt et aux prestations qui sont données par l'Agence de revenus du Canada aux aînés. Alors voici les 11 crédits et prestations les plus courants. Le fractionnement du revenu de pension. Alors, si vous recevez une pension, vous pourriez attribuer jusqu'à 50% de votre revenu de pension admissible à votre époux ou à votre conjoint de fait. Supplément du revenu garanti. Si vous recevez le supplément du revenu garanti ou des allocations en vertu du programme de la sécurité de la vieillesse, vous pouvez renouveler vos prestations en envoyant votre déclaration de revenus à temps. Régime enregistré d'épargne retraite, les REER. Les cotisations REER peuvent réduire votre impôt à payer. Vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année où vous atteignez 71 ans pour cotiser à votre REER. Le régime enregistré d'épargne invalidité, le REI, R-E-E-I. Les cotisations à un REI aident les familles à mettre de l'argent de côté pour assurer la sécurité financière d'une personne qui a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les cotisations à un REI ne sont pas déductibles d'impôt et peuvent être faites jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Crédit pour la taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée, TPS, TVH. Vous pourriez avoir droit à ce crédit non remboursable versé tous les 3 mois qui aide à récupérer une partie ou la totalité de la TPS ou la TVH que vous payez. Pour recevoir ce crédit, vous devez remplir une déclaration de revenus et de prestations chaque année, même si vous n'avez reçu aucun revenu durant l'année. Si vous avez un époux ou un conjoint de fait, un seul de vous deux peut recevoir ce crédit. Le crédit sera payé à la personne dont la déclaration sera traitée en premier. Frais médicaux. Si vous avez un époux ou un conjoint de fait, vous pouvez demander le remboursement de frais médicaux admissibles qu'il a ou que vous avez partagé pour lui ou pour elle, pour vous ou pour ses enfants ou pour vos enfants nés en 1999 ou après. Ces frais doivent être payés au cours d'une période de 12 mois, se terminant en 2020.